Bonjour à tous. Il y a quelques jours, l'Alliance française de Sydney a organisé une rencontre virtuelle avec Jean-Yves Ferry. Jean-Yves Ferry, depuis 10 ans, il est le scénariste des aventures d'Astérix en bande dessinée et il a donc répondu aux questions de Philippe Osterman, le directeur de l'Alliance française de Sydney, à l'occasion de la parution du tout dernier album et des dernières aventures d'Astérix, Astérix et le Griffon. Je vous propose d'écouter une version courte de cet échange.
Jean-Yves, même si nous nous connaissons depuis des temps immémoriaux, bien avant l'invasion de la Gaule par l'Empire romain, nous essaierons de nous vouvoyer pendant cette émission. Vous avez publié vos premières bandes dessinées dans le mensuel Fluide Glacial, mensuel d'humour et de bande dessinée fondé par le génial Marcel Gottlieb. Et on parlera un tout petit peu de Marcel Gottlieb à un moment dans la conférence. Bien que vous soyez avant tout un auteur complet, dessinateur et scénariste, notamment du formidable De Gaulle à la plage, vous vous êtes illustré en tant que scénariste, d'abord pour Manu Larcenet avec Le Retour à la Terre, puis comme successeur d'un monument de la bande dessinée, René Goscinny, avec la bande dessinée la plus vendue au monde, juste après le manga One Piece, Les Aventures d'Astérix le Gaulois. Astérix, c'est vraiment un monument, c'est la bande dessinée française, donc la plus traduite dans le monde entier, qui existe dans plus de 100 langues et énormément de langues régionales. 4 films qui ont tous été des succès absolument colossaux au cinéma en France et partout en Europe. 10 dessins animés qui ont eux aussi été d'énormes succès et qui ont d'ailleurs été présentés à l'Alliance française French Film Festival pour la plupart. Je vous propose, avant que nous passions à Astérix, de vous présenter en quelques mots et d'évoquer vos débuts en bande dessinée. D'abord, je crois que vous ne veniez pas d'un milieu artistique. Comment vous êtes venu cette envie de dessiner et de raconter des histoires ?
Bon, j'appartiens tout simplement à une génération, donc celle des années 60, où la bande dessinée était un peu centrale, c'est-à-dire qu'elle représentait beaucoup pour nous, jeunes lecteurs à l'époque. C'était un peu dans la bande dessinée que se passaient les choses en France à cette époque-là. Donc tout naturellement, je suis allé vers la lecture de la bande dessinée. Et tout naturellement aussi, c'est vers ça que j'ai essayé d'aller quand je suis devenu dessinateur petit à petit, à partir du lycée jusqu'aux années, on va dire, où j'étais étudiant. J'ai fait un passage aux Beaux-Arts et puis tout naturellement, j'ai essayé ensuite de travailler d'abord dans l'illustration enfantine, dans la presse jeunesse et puis dans la bande dessinée à partir des années 90.
Vous avez rencontré Manu Larcenet, donc. Là, vous êtes arrivé chez Dargaud avec Le Retour à la Terre. Le Retour à la Terre, vous pouvez nous pitcher en quelques mots ?
Alors, Le Retour à la Terre, c'est une série qu'on a décidé de faire avec Manu Larcenet. Il faut savoir que Manu Larcenet était un Parisien qui a décidé un jour d'aller vivre à la campagne. Et ça l'a un petit peu effrayé au départ parce que c'était un vrai citadin finalement et il se retrouvait dans un environnement assez nouveau. Et moi, en tant que scénariste, j'ai tout de suite vu qu'il y avait là moyen de raconter des choses amusantes. Donc, je me suis mis à scénariser les aventures de Larcenet, du vrai Larcenet, arrivant à la campagne. Et lui, en tant que dessinateur, a dessiné cette série un peu comme un acteur. Il s'est dessiné comme un acteur. Voilà, alors c'est une série qui nous tient à cœur parce qu'il y a le fond qui est réel, c'est-à-dire que le vrai Larcenet existe. Mais finalement, c'est de l'imagination parce que j'ai imaginé la vie de Larcenet dans son nouvel environnement.
Pour les Australiens qui nous écoutent, Le Retour à la Terre, c'est un peu comme si un habitant de Sydney ou de Melbourne allait s'installer en plein milieu de l'Outback et découvrir la vie là-bas. Et donc, c'est effectivement extrêmement drôle. Mais là, vous n'étiez que scénariste. Et vous avez ensuite proposé à Dargaud De Gaulle à la plage.
Voilà, alors De Gaulle, peut-être que vous autres à Sydney, vous croyez que De Gaulle est un personnage historique. En fait, non, c'est un personnage que j'ai inventé, bien sûr. Non, ce qui est amusant, c'est que De Gaulle à la plage, c'est pareil, c'est un fond historique parce que je choisis une période de la vie du général De Gaulle, mais j'invente une sorte de contexte où il est en vacances au bord de la plage. Voilà, c'est un peu le sujet de cet album.
C'est très, très drôle. Et donc, oui, De Gaulle et Le Retour à la Terre vous ont donné une certaine visibilité. C'est des vrais succès qui se sont vendus chacun à plus de 100 000 exemplaires en France, ce qui est déjà beaucoup. Et du coup, comment ça s'est passé? On vous a appelé pour faire Astérix.
Alors Astérix, c'est encore une autre histoire, c'est-à-dire que Albert Uderzo, qui était donc le dessinateur historique de la série, a décidé de prendre sa retraite finalement. Et il a confié le personnage aux éditions Hachette. Et les éditions Hachette se sont mises à la recherche de deux nouveaux auteurs. Donc il y a pas mal d'auteurs en France qui ont été approchés pour continuer la série Astérix, dont moi. Et bon, j'étais pas très très chaud parce que, évidemment, Astérix, c'est une série un peu un patrimoine ici, un peu difficile quoi, de penser à la suite, à poursuivre ce genre de série. Mais finalement, bon, j'ai essayé, j'ai proposé un pitch et bah, Uderzo a choisi ce pitch et du coup, bah, voilà, je me suis trouvé à devoir écrire cette première histoire, voilà. Et depuis, tous les 2 ans, on a sorti un album. Donc, on en est au 5e album de cette reprise. Voilà, le dernier qui est là dans mon dos.
Quand on vous annonce que vous allez succéder à ce qui est sans doute le plus grand scénariste de la bande dessinée, René Goscinny, qui est donc le scénariste créateur d'Astérix, mais aussi le scénariste des meilleurs Lucky Luke, le scénariste des Dingo Dossier, le scénariste d'Is No Good, l'écrivain du Petit Nicolas, qui est un génie absolu de l'humour. Qu'est-ce que ça fait quand on vous annonce ça?
Ben, on essaye de pas trop y penser en fait, parce que c'est sûr qu'on peut pas rivaliser. Simplement, on se concentre sur l'histoire qu'on invente, quoi. Donc, tout en sachant que c'était presque impossible à faire, bon, on essaye. Et effectivement, je me suis aperçu qu'il fallait plusieurs albums finalement pour prendre possession, en tout cas pour Astérix, de cet univers-là. Ça peut pas se faire en un seul coup. Je dirais que c'est avec ce dernier album que je me sens enfin un peu plus libre et un peu plus proche de ce que je peux faire pour Astérix.
Avant de parler du dernier album, donc Astérix et le Griffon, il y a quand même quelque chose autour d'Astérix qui est pour moi incroyable, même s'il y a des tonnes d'explications, mais qui est incroyable, c'est le succès international de cette série. Et donc, comment cette série qui parle d'un petit village gaulois, qui est quand même extrêmement, extrêmement française dans beaucoup de ses références, comment, à votre avis, c'est devenu un succès international qui est lu en Australie, où c'est la plus grosse vente de bande dessinée hein, en Australie, et c'est 70 000 exemplaires, ce qui est énorme en Australie, mais aussi dans des pays comme le Vietnam, comme l'Argentine, comme en Afrique, partout dans le monde, en fait, il y a des lecteurs qui se reconnaissent dans Astérix.
Moi, ma théorie, c'est que Astérix, c'est pas si français que ça. N'oublions pas que Goscinny était quelqu'un qui venait aussi, qui avait vécu son enfance à l'étranger,
Argentine.
une Argentine. Uderzo était fils d'Italien. Et donc, le regard qu'il porte sur la France et sur les Français est un regard un peu avec beaucoup de recul. Et je crois que dans beaucoup de pays, du coup, on a pu retrouver un peu ce rapport qu'on a avec le village, le petit village de base du pays, et le recul qu'on peut avoir sur ses propres stéréotypes. C'est-à-dire que Goscinny avait le regard sur, on va dire, les travers et les côtés amusants des Français, mais qui ne concernent pas que les Français, qui sont les idées reçues qu'on a partout dans le monde entier. D'ailleurs, les Allemands, souvent, que Astérix est allemand. Parce qu'en fait, dans chaque pays, la traduction et le traducteur est obligé de mettre tout ça à la sauce du pays, ce qui fait que le lecteur croit souvent que c'est une série qui appartient à son pays. Enfin, dans le cas de l'Australie, c'est plus difficile parce que. Mais en Europe, c'est comme ça.
La légende veut, et je ne sais pas si c'est vrai, mais je crois que c'est vrai, que Goscinny faisait traduire, quand il y avait une traduction anglaise ou une traduction allemande d'Astérix, il faisait traduire du français vers l'anglais à un traducteur, et ensuite il faisait retraduire par un autre traducteur de l'anglais ou de l'allemand vers le français pour vérifier que le traducteur n'avait pas dénaturé son travail. Est-ce que vous faites ça aussi, vous?
Alors, chez l'éditeur, il y a effectivement quelqu'un qui est chargé de recevoir les traductions et de les traduire à son tour pour voir si l'esprit est toujours là. Mais pour en revenir à Goscinny, c'est vrai qu'il avait dit que la traductrice en Angleterre faisait un travail formidable et que Astérix chez les Bretons, par exemple, était meilleur en anglais pour Goscinny que l'original. Elle avait trouvé tout un tas de manières de rendre l'humour de l'album. Par exemple, Goscinny jouait beaucoup sur les traductions littérales de l'anglais pour faire rire les Français. Alors elle, la traductrice, elle ne pouvait évidemment pas jouer là-dessus. Elle a joué sur des formules un peu vieil anglais et ça marchait tout aussi bien.
On va parler maintenant du nouvel album, donc Astérix et le Griffon. Ce Griffon, il est effectivement, et c'est une des subtilités, je trouve, de l'album, dont sur beaucoup de vases romains, qu'on voyait d'ailleurs à l'époque où Uderzo dessinait déjà et où Goscinny scénarisait. Et c'est de là que vous est venue l'idée ou ça vous est venu comment?
L'idée vient en fait d'un thème que je voulais aborder, qui était celui à l'époque des sectes. Parce que sous les Romains, il y avait beaucoup d'histoires de sectes. Et de fil en aiguille, je suis arrivé aux représentations, aux idoles. Et le plus simple était d'utiliser une idole connue des Romains. Donc là, ça a été le Griffon. Et après, la question du scénario, ça a été où est-ce qu'on trouve le Griffon? Et ça m'a amené à baser l'histoire à l'est de l'Europe, dans des régions qui vont de l'Ukraine au Kazakhstan à la Russie, qui à l'époque étaient évidemment des territoires inexplorés par les Romains.
Que ce soit Goscinny ou que ce soit vous, vous travaillez énormément sur des faits réels, des faits existants. Donc maintenant, vous êtes devenu un spécialiste de l'histoire romaine ou...
Pas tout à fait, mais disons que j'aime bien partir, peut-être davantage que Goscinny, ça m'aide de partir de quelque chose d'historique. Le papyrus de César, ça partait de l'état du livre à l'époque des Romains. Il y avait eu aussi la Transitalique qui s'était intéressée à l'état des routes et du réseau routier en Italie à l'époque des Romains. Dernièrement, la fille de Vercingétorix, c'était quand même un peu le contexte d'Alésia et du chef gaulois. Et cette fois-ci, c'est le Griffon, donc c'est les peuples de là-bas, quoi.
Vous travaillez sur des documents d'historien. Comment vous faites, en fait? Quelle est la documentation
Justement, à chaque fois qu'il y a une histoire qui est en cours, je vais chercher un peu ce qui se passe pour le pays en question. Là, sur les Sarmates, qui est ce peuple qui vit dans l'est de l'Europe à l'époque d'Astérix, il y a peu de documents, mais il y en a quand même quelques-uns. Évidemment, après, il faut délirer à partir de ça. Il ne faut pas rester là-dessus. On voit César dans cet album qui dit qu'il avait écrit, dans sa guerre des Gaules, il a écrit que les licornes, qu'il y avait des licornes en Germanie. Il dit ça à son géographe dans l'album. Et ça, c'est effectivement vrai. C'est-à-dire que si vous lisez la guerre des Gaules, il y a un passage où... ou j'allais dire De Gaulle, non pas De Gaulle, mais César, situe des licornes en Germanie.
D'accord. Et vous parlez du géographe. Alors le géographe, pour les Français, c'est quelqu'un de très connu.
Oui, le géographe a les traits d'un écrivain français dans l'album, qui est Michel Houellebecq, et qui fait assez polémique, donc qui est un personnage un petit peu sulfureux, mais qui surtout là avait la tête de l'emploi.
Je pense que vous l'avez fait exprès, mais Michel Houellebecq, un de ses livres les plus connus, c'est La carte et le territoire, et il est énormément dans l'album, question de carte et de territoire.
C'est vrai, après, je n'ai pas voulu faire une charge particulière contre Houellebecq, mais au niveau du physique, il correspondait très bien au rôle, et d'ailleurs, il joue très bien dans l'album.
Alors, dans cette histoire, et que je ne veux pas du tout divulguer ou divulgâcher maintenant, comme on dit en français, on voit Obélix qui est confronté aux affres du sentiment amoureux pendant quelques pages. Et j'ai l'impression que c'est toujours Obélix qui se retrouve dans cette situation. On se souvient de Falbala dans Astérix Légionnaire. Il y a une ou deux autres fois dans des albums. C'est rarement Astérix à qui ça arrive.
Bon, c'est le personnage sensible, en fait. C'est celui qui est guidé par l'affectif. On dirait que tout est possible pour Obélix. Quand on fait un scénario, on sait que Obélix, on va pouvoir l'utiliser de manière imprévue.
Alors qu'Astérix, il est beaucoup plus rigoureux et...
Alors, Astérix est rigoureux, il est devenu un peu trop sage. Et du coup, dans cet album, ce que j'ai cherché à faire, c'est à le réveiller un peu. Justement, en excitant sa jalousie. C'est-à-dire qu'Obélix, à la faveur des guerrières qu'il rencontre, et ça a le don d'énerver un peu Astérix.
Mais c'est vrai qu'il est plus sage. Par contre, dans l'album, il y a aussi un twist qui a jamais été fait par Goscinny. Il n'y a pas de potion magique.
Voilà. Alors, ça fait partie aussi de ce que j'ai trouvé pour énerver Astérix. C'est-à-dire que cette fois-ci, on découvre que la potion magique peut geler. Or, quand elle gèle dans ces pays froids, là, ses pouvoirs deviennent inopérants. Ça, on ne le savait pas encore, mais voilà.
Et l'autre chose aussi qui est aussi une tendance assez lourde, la place des femmes devient de plus en plus importante dans Astérix et notamment dans cet album.
Faut pas oublier que c'est une série qui avait été créée dans les années 60, à l'époque où la femme avait évidemment dans la société un autre rôle. Et dans les nouveaux albums, on s'aperçoit effectivement que les femmes deviennent partie prenante. Le précédent, c'était la fille de Vercingétorix, où j'imaginais que Vercingétorix avait eu une fille. Et évidemment, elle a son propre projet de vie. Elle ne veut pas devenir l'héritière de ce monde de guerriers moustachus. Donc elle prend le large.
Oui, et dans celui-là, c'est les femmes qui sont des guerrières, c'est les Amazones.
Oui, alors ça, historiquement, c'est vrai que chez les Sarmates à l'Est, on trouvait des femmes guerrières. Et simplement, je pousse un peu plus loin le bouchon. Et dans cet Astérix, vous verrez que les femmes vont à la guerre et que les hommes gardent les enfants.
Question aussi importante, est-ce qu'on aura un jour un Astérix en Australie?
Bien sûr.
Bien sûr.
C'est facile. Ben, je ne sais pas, la difficulté pour aller en Australie quand on est gaulois, c'est le voyage. Il faut trouver une manière de voyager. Par exemple, dans celui-ci où ils restent en Europe, mais où ils vont très loin vers l'Est, déjà, c'était une question. On ne peut pas passer 10 pages à voyager, donc il y a une grosse ellipse. Dès la page 3, on est quasiment sur place, en fait. Il faut toujours trouver une manière d'accélérer les choses.
C'est vrai que l'Australie, à l'époque d'Astérix, c'était effectivement c'était un pays aborigène pur et je pense que les Romains ne sont pas allés jusque-là. Même
Non, je
Alexandre le
pense pas.
Grand n'y est pas arrivé.
On pourrait imaginer une histoire à l'envers, c'est-à-dire que pour une raison ou une autre, un aborigène arrive en Gaule, par exemple. Mais c'est difficile, c'est difficile. Si vous avez des idées, moi je suis preneur.
Il y a une très bonne suggestion d'Abel qui a 7 ans et qui dit que pour faire venir Astérix en Australie, il faut qu'il se fasse emprisonner par les pirates et qu'il dérive vers l'Australie.
Ça prendra 3 ou 4 albums,
Ouais.
mais c'est possible.
Merci beaucoup Jean-Yves et à très
Merci.
bientôt.
Merci Philippe et merci à tous.
Un dernier mot également pour préciser que les dernières aventures d'Astérix, Astérix et le Griffon devraient arriver dans les librairies australiennes d'ici quelques jours, quelques semaines au plus tard, à la fois en français mais aussi en anglais, et qu'il sera également prochainement disponible pour être lu dans la bibliothèque de l'Alliance française de Sydney.